À Libre-Échange, ce midi, on reçoit un candidat à la chefferie, à la course à la chefferie du Parti québécois. Il est de passage dans la région. Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Première visite dans la région, non?
Non, en fait, j'ai fait plusieurs visites, notamment lors de la course 2016. Également, j'avais fait une consultation sur le renouveau du Parti québécois qui s'appelait « Oser repenser le PQ ». On avait fait une consultation ici à Gaspé. Donc, non, en fait, je suis un régulier.
Un régulier. Vous dites, donc, 2016, vous avez déjà tenté votre chance à la course à la chefferie.
Oui, en 2016, à l'âge de 39 ans, j'avais fait un peu une course surprise, c'est-à-dire que les gens ne me connaissaient pas. Je pensais en fait que je ne pourrais pas recueillir les signatures puis le financement nécessaire pour participer. Puis bon, les attentes n'étaient pas élevées, mais j'ai fini la course avec le titre de révélation politique de l'année, puis j'ai été nommé conseiller spécial, donc ça a bien fini. Mais disons que la course 2016, je ne jouais pas pour gagner, mais plus davantage pour apporter des nouvelles idées puis parler du renouveau du Parti québécois. Et en 2020, on parle toujours du renouveau du Parti québécois.
J'allais dire que c'est encore là. C'est encore là, oui.
Exact.
Mais qui est Paul Saint-Pierre Plamondon, si on veut vous connaître un peu plus? Oui.
Ben à la base, je suis un avocat. Je suis un gars qui a voyagé beaucoup dans le monde. J'ai travaillé en Bolivie, j'ai étudié au Danemark, en Suède, en Norvège. J'ai travaillé à l'OTAN, en Belgique. J'ai étudié en Angleterre. Je suis un gestionnaire de compagnie, c'est-à-dire que je gère... le travail que j'ai fait dans les dernières années, c'est gérer des firmes d'avocats sur le plan des finances, des opérations. J'ai d'expérience en télévision puis en radio. Il y a des gens qui m'ont connu à l'époque de Bazo.tv. J'étais chroniqueur régulier. Je faisais aussi de temps à autre le journal Les Affaires, RDI Économie, de la radio. Donc, j'ai un CV qui est très rempli pour un gars qui a 43 ans. Et dans le Parti québécois, je me suis fait connaître par la course. Et ensuite, par cette consultation sur le renouveau du PQ qui s'appelle « Oser repenser le PQ ». Donc là, on arrive en 2020, puis c'est un moment de vérité pour moi où est-ce que, fort de toutes ces expériences-là, je pense que j'ai un CV qui apporte le vent de changement puis le renouveau que la population veut. Mais en même temps, j'ai cette expérience-là puis ces connaissances-là qui font de moi un candidat capable de bien gérer, de bien amener le Parti québécois comme chef lors des prochaines élections.
Donc, 2020, ça passe ou ça casse pour vous? Parce que 2016, vous étiez là, la révélation politique.
Il y a un aspect qui est vrai là-dedans, que pour le parti en général, ça passe ou ça casse. C'est pas une course à la chefferie comme les autres. Puis ça, il faut le dire. Il y a des scénarios dans lesquels, je crois, le Parti québécois peut vraiment renaître de ses cendres et avoir un nouveau cycle autour de l'indépendance. Je pense que les militants sont très clairs là-dessus, moi aussi. On veut qu'un vote pour le Parti québécois, ça soit clairement un vote pour l'indépendance. Mais dépendamment du choix qui sera fait, des orientations qui seront faites, il y a toute la dynamique des chroniqueurs et même d'ex-députés du PQ qui parlent de la mort du PQ. Il va falloir que le prochain candidat incarne d'autres choses que le statu quo, puis incarne un peu une prochaine génération de péquistes, un prochain chapitre. Donc, ce n'est pas une course à prendre à la légère, c'est pas comme les autres courses où ceux qui finissaient deuxième, troisième, quatrième se trouvaient tous une job au sein du PQ. Je pense que le Parti québécois est à la croisée des chemins, puis il faut le dire. Puis moi aussi, à 43 ans, d'une certaine manière, on peut le dire, je suis à la croisée des chemins.
L'indépendance, vous dites, faut s'afficher, vraiment. Et donc, vous voyez ça dans un premier mandat, rapidement?
Oui. Donc, l'idée, c'est que c'est très difficile de parler des bienfaits du pays lorsqu'en fait, on dit aux gens, mais oubliez ça, on le fera pas. Ça va être un projet pour un jour, là, très lointain, mais pas pour l'instant. Mm-hmm. Les journalistes, d'ailleurs, te posent pas de questions sur l'indépendance à ce moment-là parce qu'ils se disent, bien, c'est du vieux stock. C'est des choses qu'on sait déjà. On le sait que tu es indépendantiste. On va parler d'autres choses. Moi, ce que j'observe depuis que j'ai proposé un référendum dans un premier mandat, j'ai été le premier à le faire. Il y a eu des réactions très négatives. Certains candidats même ont même parlé que ça prendrait l'intervention du Saint-Esprit pour qu'une telle proposition fonctionne. D'autres ont été extrêmement enthousiastes en disant « Enfin, le Parti québécois dit clairement pourquoi il existe et est conséquent, il propose quelque chose de concret. » Et ça, je pense, ça fait du bien à l'indépendance parce que ce que je constate ensuite en entrevue, c'est que j'ai de l'espace pour parler du fait qu'on s'est trompé en 95, que la conséquence de 1995 du non, ça a été de porter le clan du non au pouvoir. C'est Jean Charest qui a affaibli le Québec, affaibli la langue française, affaibli les régions pour que le Canada garde le contrôle sur le Québec. Puis moi, je vois les prochaines années, puis je me dis, le Québec perd du poids démographique dans le Canada. Il compte de moins en moins pour le Canada. Donc, nos intérêts vont être de plus en plus bafoués. Puis je regarde mes enfants, puis je me dis, moi, je ne veux pas laisser à mes enfants le déclin du Québec, le mépris que le Canada a envers le Québec, le sentiment aussi qu'on ne sait même pas si la langue française va survivre à travers le temps. Moi, je veux laisser d'autres choses que ça à mes enfants. C'est l'indépendance que je veux dire.
Vous disiez tantôt, l'indépendance, plusieurs voient ça comme du vieux stock. Je reprends vos mots. Ouais. Comment on fait pour raviver la flamme de l'indépendance? Est-ce que la nouvelle génération pourrait adhérer?
Il y a une nouvelle génération.
Parce qu'il y a eu comme un moment où c'était moins populaire avec les dernières années, donc les difficultés du parti aussi.
Mais évidemment, puisqu'on allait en élection en disant qu'il n'y aura pas de référendum. Donc, comment voulez-vous qu'on en discute? Et il y a une nouvelle génération qui est en train de prendre sa place au Parti québécois, que j'incarne bien, qui va devoir retourner dans les cégeps et dans les universités et parler de pourquoi autant de gens se consacrent à cette cause-là. C'est une cause qui est légitime. Donc, il y a de l'espace au fond du cœur des gens. Les gens savent que l'indépendance, ça, idéalement, on l'aurait déjà faite. Donc, il y a beaucoup d'espace pour que cette idée-là reprenne de la force.
Puis, est-ce qu'il faut redéfinir ça, l'idée de l'indépendance, par rapport à ce qu'on a déjà dit, justement, par le passé, il y a 20 ans et
évidemment.
Aujourd'hui? Là, bon.
Il y a plein d'études qui sont à refaire. La première chose que j'ai faite, ma campagne, le slogan, c'est « oui », et j'ai refait de nouvelles pancartes pour ne pas utiliser celle de 95. Mais tu sais, dans les symboles forts, si tu te rassembles et tu as encore le même matériel marketing qu'en 95, il y a quelque chose qui cloche. Même chose quand on parle d'études économiques. Souvent, on dit qu'on est dépendant de la péréquation puis que le Québec ne serait pas viable. Dans les faits, c'est faux. On serait le pays le plus riche de toute l'histoire du monde à devenir indépendant lorsqu'on va le faire. Donc, j'ai proposé notamment de faire de nouvelles études sur la viabilité économique du Québec. Donc, il y a plein de choses à actualiser, en effet.
Oui.
Et c'est ce que je propose depuis le début de ma campagne.
Alors, ce sera évidemment à voir. Laissons un peu l'indépendance de côté. Parlons des régions.
Oui.
Donc, pour vous...
Mais ça va ensemble, hein?
OK.
Ça va ensemble. Quand on est pris dans un carcan fédéral où le fédéral fait pas mal n'importe quoi en bafouant les intérêts des régions, que ce soit dans les infrastructures des quais ou que ce soit dans le transport ferroviaire... Tout ce que le fédéral fait, c'est le plus souvent au détriment des régions, surtout lorsqu'une région est plus indépendantiste. Et moi, je vois dans un Québec indépendant que les régions auront droit à l'équité, auront droit aux mêmes infrastructures. Donc, il y aura une façon de se libérer de ce carcan fédéral-là. Puis, deuxième chose que je veux dire, que vous savez déjà, mais qu'il faut rappeler, c'est que le PQ, c'est le parti de la défense des régions depuis des années. Puis un gars comme moi, en 2020, je me dis, mais comment est-ce que je peux actualiser la même mission? Je veux pas que ça change. Je veux qu'on demeure les champions de la décentralisation, les champions de l'investissement en région pour donner de la vitalité économique. Mais je veux l'actualiser de manière à ce qu'on puisse en parler version 2020. Puis c'est pour ça que je suis le premier candidat à la chefferie à venir ici en Gaspésie. C'est parce que je veux écouter puis m'assurer d'avoir un plan qui soit très actuel pour à nouveau défendre l'intérêt des régions.
Bon, la Gaspésie, à part de d'autres régions ou
bien,
pas?
Toutes les régions sont à part des autres. C'est un piège un peu de dire les régions, hein, parce que si on fait du mur à mur avec les régions, on fait le même programme, ou pire, comme les libéraux ont fait, puis que la CAQ continue largement, si on centralise, puis on enlève aux régions leur levier, bien, on n'a pas de plan qui colle à la réalité de chaque région. Donc, évidemment que la Gaspésie, c'est pas la même chose que l'Abitibi. Mm-hmm. Et c'est une grave erreur que les libéraux ont fait, puis que la CAQ continue. Vous remarquerez, les CRI, les CLD, il n'y a rien qui est revenu, là. Ce que les libéraux ont détruit, la CAQ ne rebâtit pas. Elle continue dans le même moule. Et moi, je pense qu'un gouvernement du Parti québécois, la première chose qu'il ferait, c'est de décentraliser en laissant chaque région avoir son propre plan de match en fonction de sa situation.
Gaspésie, les dossiers qui vous préoccupent?
Bien, les transports, l'état des quais, la capacité des gens de prendre des décisions, de prendre des initiatives économiques puis d'être soutenus par le gouvernement. Moi, je crois beaucoup à la décentralisation puis à l'initiative régionale. Et quand on ne travaille pas avec les entrepreneurs, les gens politiques qui connaissent la réalité régionale, on arrive toujours avec des solutions gouvernementales qui ne collent pas, qui ne fonctionnent pas. Et donc, moi, c'est ça mes priorités, c'est qu'on revienne à un système où on donne le pouvoir aux gens d'améliorer leur situation économique et sociale.
Bon, vous êtes dans cette course-là, évidemment, avec d'autres candidats, Sylvain Gaudreau, Frédéric Bastien et Guy Nantel. D'ailleurs, ce dernier, dans un sondage ce matin, Nantel déclasse la compétition, c'est ce qu'on titre dans le Journal de Québec, avec 38% des intentions de vote à la question « Qui ferait un meilleur chef du Parti québécois? » 16% Sylvain Gaudreau, Paul Saint-Pierre Plamondon, vous, 5%, Frédéric Bastien, 4%.
Oui.
Comment vous expliquez ces résultats, vos commentaires?
Bien, c'est un concours de notoriété. C'est-à-dire que lorsque la course n'est pas débutée et on demande à des gens qui ne sont pas nécessairement membres du Parti québécois, des gens qui se disent favorables au PQ, on leur demande qui ferait le meilleur chef, bien, la plupart du temps, ils vont répondre le nom qu'ils connaissent parce qu'ils ne sont pas intéressés. Puis souvent, les gens ne suivent pas la politique de très près. Donc, c'est vraiment une distorsion où est-ce que c'est un concours de notoriété. Puis c'est la grande question de la politique dans tous les pays en ce moment. C'est est-ce que la politique, c'est qu'un concours de notoriété? Est-ce que la notoriété en soi, c'est une compétence?
Donc, ce que vous dites, c'est parce qu'il était connu, dans le fond, de la population plus que les autres candidats.
C'est juste ça. Mm-hmm. C'est juste ça parce qu'il n'y a pas une seule idée puis une seule proposition qui est sur la table en ce moment. Là, la course n'est pas commencée. Donc, il faut réaliser que ces sondages-là découragent ou empêchent la démocratie parce que les idées n'ont pas encore été fournies et on demande au grand public qui ne suit pas du tout la course parce qu'elle n'est pas débutée, qui ferait un meilleur chef. Donc, moi, je suis très sceptique. Ça me fait beaucoup penser aux dernières élections générales où les gens se faisaient dire, bien, finalement, si vous voulez remplacer les libéraux, il y a un seul choix, les sondages vous le disent, c'est la CAQ. Donc, les gens qui étaient péquistes me disaient, je demeure péquiste, mais je vais être obligé de voter CAQ parce qu'il faut que je sorte les libéraux. Mais ça, là, c'est tuer la démocratie.
Ouais.
Parce que les gens, ils votent plus en fonction de l'indépendance ou en fonction de leurs idées, de l'intérêt régional. Ça devient des raisonnements super simplistes, du genre pour ou contre, comment débarquer les libéraux ou qui est le plus populaire, qui est le plus connu. Puis ça, c'est absolument pas garant de la qualité du gouvernement ou du candidat par après. Là.
Donc, vous dites, attendons de voir, la course commence. Là, puis,
Plus que ça, là, je vous dis, c'est sûr qu'il faut attendre de voir parce que ces sondages-là, ils sont toujours contredits dans le cadre de la course.
Et ce n'est pas la population générale qui va voter.
Non, c'est les membres, mais ça bouge aussi parce que les journalistes aiment beaucoup quand ça bouge. Donc, aussitôt que ça bouge, là, les journalistes disent « Oh, il se passe quelque chose » et là, on veut que quelqu'un monte, que quelqu'un descende. C'est très rare que, en fait, ça n'existe pas des courses où tout le monde se maintient exactement au même niveau pendant 4 mois. Ça serait bien trop plate. Et c'est de toute façon, comme je vous dis, c'est que ces chiffres-là ne sont pas le reflet de ce que pensent les membres parce qu'on n'a pas sondé les membres puis on a sondé les gens avant même qu'il y ait une course. Donc, c'est normal que ça soit très peu représentatif de ce qui va se produire pour
officiellement, la course, ça commence...
Ça débute lorsque les gens ont obtenu leur signature. Il faut ramasser 2000 signatures à travers le Québec. Et ça débute début avril. Donc là, en ce moment, on n'est même pas dans la course telle quelle.
Donc,
c'est juste
avril,
que moi, je prépare à l'avance mon plan régional en venant ici en Gaspésie.
Bien, merci beaucoup d'être passé dans nos studios, Paul Saint-Pierre Plamondon. Très intéressant de vous avoir reçu. Merci.
Au plaisir.